bienvenue avec les gars qui sont vous aider.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigris.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Tout à l'heure nous aurons. Je rêve. Tout à l'heure nous aurons en live Juliette Armanet, notre invité, et Jérémy Alcaï. Jérémy, bienvenue à ce micro. Nous allons parler évidemment. L'actualité est chargée. Hein, parce
ah
que,
bon, ah bon.
Ben oui.
Ah merveilleux.
Il n'y a pas que le DVD.
La vôtre, quoi.
Dans
la...
Oui, j'avais ah, compris. Oui, ben, l'actualité de façon générale, hein, cela dit.
Non, non, la vôtre.
La vôtre, la mienne.
Vous avez pris un produit avant de commencer cette émission.
Non, je suis ravi d'être
mais
là.
Comme
ça,
nous tous.
Ça suffit.
Alors, il y a l'édition du film Champs-Élysées Film Festival qui a débuté le 15 juin et qui se tient jusqu'au 22 juin, présidé par un réalisateur et producteur américain.
Tout à fait.
Nous allons en parler ensemble. Il y a évidemment Dans la forêt qui nous a fait peur bien comme il faut,
oh ouais,
dont on va parler. Donc je pense, Tom Villa, que maintenant vous avez compris pourquoi Jérémy était notre invité.
Parfait, c'est l'invité parfait. Okay, aussi. Vous l'avez dit, il vient pour la sortie du DVD du film Dans la forêt qui se passe dans la forêt, et du Champs-Élysées Film Festival, dont il est le juré, un festival de films sur les Champs-Élysées. Voilà, j'aime bien quand c'est simple comme ça, Nagui, parce que il y a des fois, on a reçu Patrice Lecomte pour un film qu'il avait ni réalisé, ni produit, on comprenait pas.
Même on a reçu Patrick Chenet, on n'a même pas compris pourquoi on l'avait invité. Et François Berléand, on en parle de François Berléand?
On n'a même pas compris sa carrière. Il y en a François Bertrand.
On sait même pas pourquoi
pour la fête foraine des écolos.
Il s'est fait battre en permanence.
Mais parce qu'il le mérite. Voilà. Les deux le méritent.
En même temps, les derniers en parlaient.
Non, mais là, on comprend, et c'est très simple, comme je le disais, vous venez nous parler du film Dans la forêt, et ça se passe pas dans n'importe quelle forêt, ça se passe dans une forêt suédoise, soit dans un vaste champ de meubles Ikea. Voilà, quand t'es un arbre dans une forêt en Suède, les issues sont faibles. Soit t'es une bûche, soit une bibliothèque Billy. Voilà, si la déchetterie c'est le cimetière d'Ikea, là on est dans les testicules. Voilà, oui, non, excusez ma trivialité, mais non, mais c'est, ça reste médical, mais c'est vrai. Alors le pitch, c'est l'histoire de deux enfants qui partent rejoindre leur père, donc vous, Jérémy, en Suède pour les vacances, sauf que leur papa est pas très rassurant. Voilà, c'est un peu un mélange de Régis Laspalès au réveil ou de Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, il les emmène dans une forêt, dans une cabane très isolée.
En plus beau, quand même.
De quoi? Que qui?
En plus beau, Jérémy est plus beau.
Que Régis Laspalès?
Il me parle de mon body.
De tout le monde.
C'est le, c'est moi, j'ai même pas prêté attention tellement j'ai eu peur.
Non, mais voilà, là, c'est dans la forêt, dans une cabane très isolée. Et a priori, voilà, le papa, il a pas l'intention de repartir de cette cabane au fin fond du champ Ikea. Donc, les deux gosses sont enfermés dans une grande forêt suédoise où un des gamins commence à avoir des hallucinations et à voir des monstres terrifiants. Et ça, c'est évident, c'est terrifiant, la forêt. Moi, je sais, par exemple, je suis un mec de la Seine-et-Marne. la forêt, ça me connaît. Il y a des ombres partout. Il y a des trucs qui bougent tout seuls. Des fois, tu crois que c'est un serpent et non, c'est une branche d'arbre. Des fois, tu crois que c'est un tronc d'arbre et non, c'est un sanglier. Et des fois, tu crois que c'est un sanglier et non, c'est deux sangliers. Voilà. Moi, la forêt, ça me connaît très bien. Je suis un enfant de la forêt. Pire que ça, j'habitais rue des Bouleaux. Voilà, pour vous. Et votre film, ça me rappelle mes week-ends, les longues balades dans la forêt, comme mon père nous emmenait avec ma sœur dans la forêt pour essayer de nous perdre. Et, et du coup, je jetais des petits
cailloux.
Non, des pépitos. Et du coup, les oiseaux les bouffaient. On mettait trois jours pour venir à la baraque. Et encore, ça, c'était que le jardin. Et non, aujourd'hui, je suis traumatisé. La seule raison pour laquelle tu peux m'emmener dans une forêt, c'est si c'est pas trop grand, en ville et sans végétation. Voilà, un square, parfait. Voilà. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez la forêt, les meubles Ikea, Xavier Dupont de Ligonnès, et bah dans la forêt, et fait pour.
Merci, Tom Villa.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
C'est vrai que Tom et son grand frère vont rejoindre leur papa après un divorce. Donc, ça commence. Le film commence par une scène chez une psy. C'est le petit garçon
Tom,
et on comprend qu'il y a déjà une part de surnaturel qui va arriver, puisqu'il demande même la différence qu'il y a entre pressentiment. Et j'ai oublié l'autre mot. Enfin bref, donc il a le pressentiment que ça va mal se passer.
Appréhension.
Appréhension et pressentiment, voilà. C'est ça. Ouais. Le pressentiment étant quand on sait que quelque chose va arriver et que l'on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et lui dit, j'ai un mauvais pressentiment
plutôt qu'une appréhension.
Pour partir rejoindre son papa que vous incarnez. Et on se dit à partir de cette scène-là, d'abord on sait qu'on va avoir peur dans le film, mais toi, t'es malade à la projection. Elle tenait plus.
Ah oui, c'est vrai, ça vous a un peu épuisé.
Ah ouais,
c'est les émotions produites par le film.
Oui.
C'est plutôt bien.
Vraiment, entre la musique, entre le scénario, on ne sait pas où ils vont, vous êtes complètement inquiétant. Et puis mélanger la peur aux enfants, moi je trouve que c'est un truc terrible.
Finissons le résumé en ne spoilant pas trop le sujet et en ne disant pas qui meurt à la fin. qui a tué surtout, est-ce que c'est Madame Rose avec la clé à molette dans la cuisine, on ne dira rien. De se retrouver, c'est vrai que forêt, comme le disait Tom Villa, enfant, comme le dit Leïla, on a l'impression qu'il y a, et le surnaturel, on a les ingrédients de ce qui fait peur, mais depuis des millénaires. Et tout est nouveau dans le film.
Disons qu'il y a effectivement, c'est les peurs archaïques, et le film joue pas mal avec ça. Je pense que Gilles Marchand, le metteur en scène, ce qui lui l'intéressait, c'était de nous replonger dans les sensations de l'enfance. Et donc vous disiez, enfin, à la fois votre comparse et vous-même, Tom, qu'on est dans le point de vue des enfants, c'est l'histoire des enfants qu'on raconte, ils vont rejoindre leur père.
Et même les caméras sont au niveau des enfants, d'ailleurs,
oui,
j'ai l'impression.
Oui, dans la grammaire du film, c'est vraiment une plongée dans leur point de vue, et particulièrement dans le point de vue de Tom, qui, contrairement à ce que vous disiez, n'a pas d'hallucination, mais a peut-être un don. Ce qui est un truc qui est plus...
Peut-être qu'il voit même ce que les autres ne voient pas.
Oui, quelque chose de plus joli, ou il y a une poésie. Il y a quelque chose d'assez fort et je dirais de qui irradie dans le film, qui est plus étrange.
Jérémy, ça fait peur quand même.
Non, ce qui fait peur, je vais vous dire, c'est quand il y a moins de rationnel. On a tendance, je pense, dans nos vies d'adultes, de donner des réponses à tout, de définir les choses pour nous rassurer. Alors que quand on est enfant, je pense que ces choses-là, on accepte qu'elles soient pas tout à fait rationnelles. Il y a un truc que j'aimais bien que racontait Gilles Marchand. Il disait que quand il était petit dans sa chambre d'enfant, le soir, au moment de dormir, il lui arrivait de regarder tout simplement un vêtement posé sur le dossier d'une chaise devant le bureau. Et ce vêtement, en le regardant dans la pénombre, pouvait tout d'un coup, s'animer. Avec ses formes, s'animer ou devenir une...
Ok, donc vous êtes tous les deux fous.
La raison, ce sont les peurs d'enfant.
T'as le monstre du placard, t'as évidemment les ombres.
T'as les formes, la forme sur la tapisserie, tout d'un coup, ça peut devenir une tête de monstre.
Et qu'on a appris... Il faut se battre contre les tapisseries pour qu'il n'y ait plus rien au mur.
Pas mettre de tapisserie.
Et là, on revient à Ikea.
Il y a aussi une espèce de monstre, on va le dire, un homme défiguré, c'est comme ça qu'il l'a écrit dans le scénario, un homme défiguré qui est en plus part d'une véritable photo qui a vraiment existé et qui était, pardon ?
C'était une tête cassée.
Exactement.
Une gueule cassée même, on peut dire.
Une espèce d'éléphant man.
D'après-guerre, enfin.
Ça s'appelait les gueules cassées.
Un soldat de 14-18, effectivement. C'est une photo sur laquelle est tombé Gilles Marchand, où le visage du soldat dont on parle est quasiment inexistant, parce qu'il a un trou au milieu du visage. Mais il a une chose particulière, c'est qu'il
a
un regard extrêmement doux, extrêmement séduisant. Il y a quelque chose de... Et donc, le paradoxe qu'il y a entre ce regard très doux et le visage cassé et dur était une des pistes importantes pour cet homme défiguré, parce que je pense que ce qui touchait Gilles Marchand, ou en tout cas du moins ce qui moi m'intéresse dans ce choix-là, parce que je peux parler de moi comme spectateur et comme participant au film, ne parlons pas des gens quand ils ne sont pas là, donc je ne vais pas parler à la place du metteur en scène, mais ce qui m'intéressait, c'était de me dire, au fond, il y a chez les gens monstrueux, quand on les regarde d'un peu plus près, peut-être quelque chose de plus intéressant, de plus doux.
C'est ce que je vous dis tous les jours en regardant Daniel Morin.
C'est ce qui me sauve, c'est ma douceur dans le regard.
ou de plus proche de nous, voilà, qu'on est un peu les monstres qui nous font peur. Et que plutôt que d'avoir de la défiance, parfois il suffit de s'approcher d'eux pour qu'ils s'humanisent.
Sauf que Leïla, vous avez vraiment eu peur.
Ah oui, moi ça a été insoutenable, je ne vous le cache pas, j'avais mis le caïn, vraiment. Alors déjà, j'étais heureuse de vous découvrir sur un autre registre, parce que là c'est une transition... complètement inattendu par rapport à toute votre filmographie, mais c'est vrai que mélanger la peur, les enfants, la forêt, vous incarnez un père qui ne dort jamais, donc ça c'est le noir, le sommeil, c'est quand même quelque chose de...
Il dit qu'il dort jamais.
Il dit qu'il dort jamais, mais en tout cas, à chaque fois que l'enfant le surprend, il dort jamais quand même, donc moi je commence à y croire. il y a des scènes comme ça où vous êtes très inquiétant et...
Vis-à-vis de ses propres enfants, ça serait encore...
C'est pas un père bienveillant,
Un moniteur dans une colonie de vacances, on dit ok, lui c'est un malade, sauf que c'est le père et ses enfants.
Et oui, alors on soupçonne au départ une forme de kidnapping qui veut éloigner les enfants de la mère, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis, c'est vrai que les deux enfants en particulier le petit Tom, a un visage d'une douceur absolue et en même temps il est inquiétant lui aussi parce qu'il perçoit des choses, c'est un individu exceptionnel en tout cas dans le film, il perçoit des choses qui nous dépassent. Et moi je suis à tous les plans, j'attends qu'il y ait un monstre qui sorte, et la musique est complètement affolante.
Ah, de Scholler, elle est incroyable.
Et c'est... en fait, pour dire à nos auditeurs, il n'y a rien de monstrueux à l'écran, mais c'est quand tout d'un coup on a une forme qui apparaît, on sursaute. Dès le départ, on est placé dans une ambiance où on se dit que ça peut venir de partout.
Ça sert à quoi pour vous, puisque vous êtes producteur de ce film, ça sert à quoi un film d'horreur ? C'est-à-dire aller chercher comme ça à faire sursauter le téléspectateur, le spectateur pardon, ou la spectatrice, ça fait partie des fondamentaux du cinéma ou des histoires que l'on raconte depuis les contes de Grimm, Perrault et autres.
Oui, c'est un peu ce que je disais, c'est que ce qui est intéressant, c'est la symbolique, la métaphore, c'est le conte ou effectivement les films d'horreur ou le fantastique, c'est quand même l'occasion de raconter des choses en réalité qui nous touchent les uns et les autres et des éléments du réel. Moi, dans le film, j'ai le sentiment que le film raconte quelque chose. Il a un propos et il est.
Et pour vous, il y a une morale.
Ah bah, une morale, je sais pas, mais en tout cas, il laisse une trace. Et cette trace-là, elle vit.
Bah, Leïla, elle a laissé une trace sur son visage.
Ouais, c'est ça. C'est
non, mais j'ai trouvé intéressant que Leïla dise que l'enfant fasse peur. Alors vous le dites parce que comme il a des dons et qu'il peut voir des choses, ces choses peuvent nous faire peur. Mais par ailleurs, dans sa manière d'accompagner son père, de continuer de l'aimer, de continuer
d'embrasser le monstrueux.
Oui, et d'être lui, de l'accompagner, enfin, dans sa plongée, dans sa folie. Il y a quelque chose qui peut être un peu inquiétant dans sa manière d'embrasser sa névrose. Moi, je trouve étrangement, alors ça vous paraît bizarre, vous allez à nouveau dire qu'on est...
Oh, c'est pas notre genre.
On est des glagos, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez universel dans ce que traversent ces gens-là.
Oui,
et que le père, sur les questions qui sont posées, par exemple, autour de la paternité et tout ça, c'est au fond des questions que tous les pères peuvent se poser.
On peut y voir une métaphore.
Le déglingo.
On peut en effet y voir une métaphore si on transpose finalement cette histoire à des cas plus particuliers. On peut voir cette absence de lien avec les enfants, cette difficulté qu'il a de tisser un rapport fort et en même temps un désamour et un amour mélangés. En fait, il est quand même très inquiétant ce personnage.
Vous vouliez dire quelque chose, non ?
Moi, j'ai une question par rapport au réalisateur. Est-ce qu'il avait l'ambition d'illustrer une sorte de voyage aux enfers ? Parce que avec la barque, la pièce au début, Caron le passeur, les fleuves qu'on passe comme ça.
La pièce.
J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de voyage comme Orphée et Eurydice, où on va au cœur des enfers pour revenir changer. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu le film, plus que comme un véritable film d'horreur au sens propre.
Oui, je pense que le film, en tout cas, il a ce décalage et il permet des interprétations. Quand on a traversé la France et puis même une partie du globe pour présenter le film dans des festivals, et on a été surpris de voir à quel point ça prêtait à des interprétations différentes, à quel point le film permettait de... Mais pas, c'est pas une toile blanche sur laquelle on va projeter tout et n'importe quoi, mais c'est comme s'il ouvrait des petites portes et que...
C'est psychanalytique, quoi.
Oui, et que quand même ces portes, en fait, correspondent à des choses qu'ont les uns et les autres et que naturellement, on a des choses à raconter de soi ou une interprétation qu'on pourrait avoir. Le réalisateur, lui, son désir, c'était de faire un film de sensations, c'est-à-dire de transmettre des sensations. Donc il n'était pas beaucoup sur...
Ça marchait.
sur la psychologie ou inventer un truc un peu métaphorique.
Dans la forêt, donc, le réalisateur en question, Gilles Marchand, a aussi réalisé Qui a tué Bambi ou L'autre monde. Il a participé au scénario de Harry, un ami qui vous veut du bien. Donc, il sait faire. Le casting, on va citer Timothée Van Dorp qui joue le rôle de Tom, son grand frère joué par Théo Van de Voorde. Il y a également Mika Zimmerman qui est l'homme défiguré, mais qui était aussi une espèce de nounou pour les enfants sur le tournage pour que les enfants puissent jouer naturellement avec le monstre.
C'est une super idée de Gilles, ça.
Voilà. Sophie Guinton, Mireille Perrier, Frédéric Carlson, Carl Lindberg et Anna Lindberg sont au casting de ce film qui sort en DVD et qui s'appelle Dans la...
Ça existe encore les DVD? Non, je rigole.
Bourré, je sais pas en quoi. Je crois...
Non. Il y a en VOD, en tout.
D'accord.
On peut même l'avoir en HD, VOD, sur tous les supports.
Pardon.
Non, c'était pour rigoler. Hein.
€4,99. 6,50 si vous l'achetez.
Vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Jérémy El-Khaïm dans cette émission.
Oui.
Le retour de Jérémy.
Et quand je pense à Jérémy El-Khaïm, je pense à un film de Philippe Barassa.
En ce temps-là, la vie était plus dure et le soleil moins brûlant qu'aujourd'hui. Malgré cela, Lucie et Aldo s'aimaient et ils vivaient ensemble.
À la suite du plan de restructuration, la direction de votre hôpital tient à vous dire que pour vous, c'est l'occasion de rebondir vers de nouveaux horizons.
C'est un extrait de la bande-annonce d'Indésirable qui est sorti en 2015, où vous incarnez un jeune homme, Aldo, très amoureux de son ami, mais qui perd son emploi et qui, pour continuer à l'aider à financer ses études, décide de devenir un accompagnant sexuel pour personnes handicapées. Là, c'est encore, dans votre filmographie, c'est encore... Encore autre chose.
Qui est un vrai métier, un vrai besoin pour les personnes.
C'est un film fort.
C'est aussi un film fantastique.
Fantastique pour ceux qui en rêvent, oui.
C'est un film fort qui pose en effet, comme tu le dis, Nagui, une véritable question de société qui, à mon sens, fondamentale, c'est le droit à la sexualité pour tous. Philippe Barassa, c'est un réalisateur aussi avec qui vous avez beaucoup tourné. Vous l'accompagnez, vous êtes souvent de tous ses projets,
Philippe Barassa. C'est un homme singulier pour qui j'ai beaucoup d'estime et j'estime particulièrement son brain, que je trouve c'est un homme brillant et drôle et extrêmement singulier. Voilà, il ne ressemble pas beaucoup aux gens qu'on fréquente en général dans ses métiers. Il a un point de vue sur les choses.
C'est pour nous que vous dites, hein.
Oui, c'est ça, surtout pour vous. Il n'est pas convenu. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un dont j'aime le travail. Et voilà.
Parce qu'on vous associe souvent à Valérie Donzelli, mais voilà, Philippe Barassa aussi. Aborder ce rôle-là, un accompagnant sexuel pour personnes handicapées, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Parce que c'est un film qui est très beau au sens où les corps sont très différents, il filme vraiment les corps, les regards. Il n'y a pas besoin de beaucoup de discours, en fait, pour comprendre à la fois la tristesse de ces personnes et votre rapport au départ assez absent, finalement, à cette activité.
Il faut se jeter à l'eau. Il faut. Ce qui pourrait donner le sentiment d'être difficile dans un film comme celui-ci, c'est le fait de donner son corps, comme on donnerait son corps à la science. Comme on donnerait son corps à des gens qui en ont besoin. Le fait de se mettre nu, les ébats effectivement avec des handicapés comme c'est dans le film.
Les femmes en fauteuil.
On pourrait croire ça. Au fond, c'est jamais ça qui est difficile, je trouve, parce que c'est ce qu'on identifie tout de suite au scénario ou pendant la fabrication. Ce qui est plus compliqué, c'est d'autres choses. C'est sur les films, c'est d'essayer de faire exister tout ça. En l'occurrence, des petites choses d'incarnation, la vérité, à quoi doit ressembler le personnage. Au fond, les sujets, c'est une chose. Ce qui est intéressant dans les films, c'est la manière de les aborder, c'est le chemin qu'on utilise pour les incarner. Quel est le ton, donc c'est toutes ces choses-là, c'est essayer de les rendre belles. Et ce qui est étonnant dans le film dont vous parlez, c'est qu'il y a malgré tout une poésie qui s'en dégage. Et on n'est pas sur le sujet de société uniquement. Enfin, il n'y a pas juste
des salades.
D'ailleurs, de façon générale, moi, c'est un des trucs qui me fait envie ou qui me motive, c'est de pas m'arrêter juste au sujet ou être dans le social ou dans le. C'est de sentir qu'il y a de la fiction qui nous embarque et que c'est l'occasion de s'exprimer et de faire des choses qui.
C'est pour ça que vous êtes devenu producteur de Dans la forêt avant d'être l'acteur.
Ouais. Alors non, en fait, la production, c'était avec Valérie Donzelli. On s'était dit, tiens, ce serait marrant d'accompagner nos amis metteurs en scène.
Vous parliez du choix, du sujet, de ce qui vous motivait. Est-ce que la démarche est la même pour produire?
Pour produire, ce qui est vraiment amusant, c'est de produire quelqu'un. Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'on ne produisait pas des films, mais qu'on produisait des metteurs en scène. Et que, donc, il y a le rapport humain qui est dingue, parce qu'on accompagne quelqu'un avec ses névroses, ses capacités, ses qualités, et c'est ça qu'on travaille.
Et vous avez passé un casting pour avoir le rôle?
Figurez-vous que oui. Dominique Moll et Gilles Marchand, qui sont assez rigoureux.
Ne voulaient pas de vous?
Non, c'est pas qu'ils voulaient pas de moi.
Je croyais qu'ils voulaient.
Au départ, oui, c'était
plus,
pas du tout.
Un comédien plus âgé.
Plus âgé, tout à fait. Et en fait, ils ont. Bravo. Ils ont rajeuni le personnage. Mais vous êtes sur le coup, Nagui. Il n'y a pas de problème.
Auto-congratulations.
Comme Morin, avec formidable.
Il y a un body language merveilleux aussi.
Il est livré avec les sons et tout.
T'as vu l'argument? C'est comme Daniel, comme les enfants.
Mais c'est mon modèle.
C'est ton mentor, bien sûr.
Ah, enfin, une parole sensée.
Voilà.
Non, en tout cas, j'ai passé des essais.
Excusez-moi, qui est
très difficile. J'ai donné de ma personne. Je me suis.
Et vous avez convaincu les réalisateurs.
Oui.
Puis comme vous étiez pas le plus cher, ça a peut-être joué dans
la
balance.
Ça, c'est un peu. Merci.
Ça s'appelle Dans la forêt et la cassette audio est disponible.
Voilà, la cassette VHS. Si vous avez des magnétoscope.
En pneumatique et tout ça, c'est top. Bref, sur toutes les plateformes numériques et
locations. Cela dit, il y a eu un travail super. Et en fait, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que le cinéma intéresse, il y a un travail, voilà, tout à fait, il y a un travail de pédagogie dans le DVD qui est absolument merveilleux parce qu'on y voit Gilles Marchand décortiquer son film et comme
c'est là où j'ai précisé. Et c'est là où j'ai entendu les explications et qui sont probantes et en plus elles sont illustrées par, dans une espèce de documentaire au milieu de l'entretien.
Il dit, vous avez travaillé,
Nagui. On s'est mis au niveau, encore une réflexion comme ça. il s'est mis au niveau des enfants et c'est vrai qu'il y a des extraits et on voit que tous les adultes et vous le premier avez la tête baissée pendant le film parce que votre regard descend vers la caméra et que la caméra est à un niveau subjectif de celui de Tom en l'occurrence et lui Tom regarde droit devant et c'est pas en contre-plongée pour souvent voir les enfants au cinéma. Donc c'est vrai que c'est le point de vue de Tom essentiellement.
C'est marrant parce qu'au départ vous croyez que c'était un manque de moyens au niveau des caméras, vous avez dit
le pied était trop court
et les acteurs étaient petits.
Vous avez bien fait de creuser Nagui.
Et le film est accessible en audio description.
Oui.
Et ça c'est aussi important de le dire.
Mais oui, c'est vrai Leïla.
Je vous remercie d'avoir dit. Je vous en prie Jérémy.
Voici en live sur le plateau de la bande originale, Juliette Armanet avec l'amour en solitaire. Bonjour Juliette.
Solo dans ma peau, sur la plage, je me lâche au mélo, je traque les nuages, solo dans ma veste, ça a dommage. C'est tellement chouette. Tu mets des cigarettes sur la plage, solo dans le bateau. Je me les vois là, mais solo je prends l'eau des matelots.
Armanet, l'amour en solitaire sur l'album qui s'appelle Petite Amie.
Bravo.
Ouais, bravo. Ça fait vraiment du bien cette voix totalement envoûtante qui nous renvoie évidemment à des références que vous devez entendre. Et je suis désolé dans toutes les interviews, tout le monde doit vous parler.
Michel Sardou, Jones,
de Michael Jackson.
C'est Barry White.
Très guttural.
Il y a le truc de Kate Bush, de Björk, de je sais pas même pas quelles sont vos références parce que dans celles que j'ai lu, elles étaient plutôt masculines, d'ailleurs, vos références musicales que féminines. Mais dans les voix féminines, lesquelles vous ont attiré dans votre adolescence?
Kate Bush, oui, absolument. Ouais. Björk,
Tori Amos.
Barbara. Tori Amos, je connais pas si bien ça.
Okay.
Mais Véronique. Sanson, évidemment. Mmh. Véro.
Tata Véro. Tata Véro.
Et France Gall aussi, elle a du groove, elle chante, elle a un groove de dingue quand elle chante.
Et généralement, quand vous, quand on vous demande vos influences musicales, piano, voix, la première chanson que vous citez, c'est un artiste masculin.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu.
Ça, mais, ça c'est bien le matin, ça.
Mais il y a eu un déclic vraiment quand vous avez entendu cette chanson?
Ils ont
non, mais je pense que c'est une chanson qui est complètement. Enfin, il l'a sortie à une époque où tout le monde faisait des orchestrations extrêmement savantes, etc. C'est tellement dénudé que ça rend le truc complètement intemporel.
C'est vrai qu'il y a un côté feignant. Ouais. Il y a un côté feignant. Les autres se cassent le tronc pour faire des trucs bien riches et payés.
Et des choses plus produites qu'elle aime bien aussi.
J'ai laissé dans une manche. Bah ouais, c'est
Souchon
magnifique.
Souchon vous le dit, et d'ailleurs, c'est.
Mais ça, justement.
Alain, dans les feignants.
Alain Souchon et Laurent vous le dit, c'est eux qui vous ont emmené sur le plateau de Taratata, et c'est comme ça que je vous ai découverte il y a quelques temps de cela, et vous avez une admiration pour le travail de producteur de.
Bah oui,
de
parce
Laurent
que.
Et d'auteur d'Alain Souchon.
Bah, c'est hyper bien produit. Pour moi, c'est. Vous le dit de ces années-là, c'est l'équivalent du Sébastien Tellier de notre époque. Il y a ces deux. Cet attelage masculin-féminin un peu étrange comme ça, sucré, et surtout les productions sont extrêmement savantes, extrêmement fines. Et
la
voilà.
Composition des mélodies aussi. Est
mais ouais, non, c'est vraiment bien. Ouais.
Et puis alors, dernière référence, souvent vous citez Bachung.
Ah ouais.
J'adore ce morceau.
Bah c'est un morceau sublime, ouais. Bah le texte est complètement génial. Et puis c'est voilà, pareil, c'est un truc très à fleur de peau, très brut, j'aime bien.
Alors vous avez grandi, vous êtes né à Lille, mais vous avez grandi à Paris, dans un monde où la culture était quelque chose d'essentiel, entre votre maman qui était libraire.
Ouais, mes parents étaient libraires.
Et le piano classique était présent, c'est-à-dire tout le monde jouait du piano.
Absolument.
Extrêmement bien, que ce soit papa, maman, les cousins, les cousines, frères et sœurs, tout le monde était doué au piano.
Oui. Bah en tout cas, on a grandi autour de ce piano, on a tous joué. À chaque fin de repas, chacun y va de sa petite mélodie, son petit truc. On a partagé ça comme, voilà, d'une manière très naturelle. Ouais.
Et à partir de quel moment vous vous êtes approprié cet instrument pour composer des mélodies et simplement pas reproduire celles du cours de piano ou de solfège?
J'ai jamais pris de cours de piano. Moi, je sais pas lire la musique.
Vous n'avez jamais pris de cours de piano?
Non, je sais pas.
Quelquefois, ça s'entend un peu.
Ouais. Je suis...
Quelquefois, ça s'entend un petit peu.
Ouais.
Sur l'ensemble, ça passe. Si on a une oreille aiguisée comme la mienne.
Mais figurez-vous que je suis assez d'accord. Mais non, j'ai commencé à composer à l'adolescence. Les premiers émois amoureux m'ont donné envie de chanter.
D'où le clin d'œil sur le titre de cet album, Petite Amie, c'est un truc d'ado?
C'est un truc d'ado, c'est un truc... Non, parce que j'aimais bien l'idée de parler d'amitié en amour. Je trouve que c'est quelque chose dont on parle assez rarement.
Ah si, moi, on en a parlé beaucoup.
Ah oui?
Avec le reste, amoureux, toi, c'était souvent, reste ami.
C'était restons amis.
Voilà. Ouais, ça, vraiment, je connais par cœur, je peux écrire des tonnes d'albums. Je peux être une parolier si vous voulez.
Très bien. Non, puis il y a un côté un peu 36-15, un truc un peu érotique.
Ah ouais.
Et puis il y a quelque chose d'un peu désuet, je trouve, dans le
terme petit ami.
Oui, ouais. C'est un peu désuet.
Alors vous jouez beaucoup avec cette ambiguïté, cette double lecture entre le romantisme et le sexy. Vous laissez planer finalement, chacun interprète la chanson et le texte comme il l'entend. Vous voulez volontairement emmener sur une route ou voir perdre les gens dans
non,
cette promenade?
Non, pas du tout. Il y a un truc extrêmement sincère dans ma façon d'écrire et de raconter ma vie et mes émotions. Après, il y a toujours une petite touche de kitsch, mais qui est, comment dirais-je, une forme de pudeur aussi, et puis une forme de fantaisie, j'espère aussi, pour pas non plus être trop premier degré, se prendre trop au sérieux.
À la folie, je sers ton corps.
Ça, c'est génial, c'est complètement kitsch. J'adore.
Ce qui est fort, c'est que, sans oublier la valeur du texte, c'est que vous servez de la voix vraiment comme d'un instrument de musique dans les arrangements. Vous avez une voix qui est vraiment votre empreinte, qui est votre
vraiment
qui est
votre musicale.
Ouais. Non, mais non, c'est un instrument, c'est ça qui est fort. Pour oui, quelqu'un mais... qui dit en plus de ne jamais avoir fait de solfège, vous en jouez.
Mais
avec
j'ai
un
mis
un
du temps
confort
à la trouver cette voix parce que quand j'ai commencé un peu, j'ai fait d'autres disques, voilà, plus jeunes. J'espère que personne les écoutera jamais.
Enfin, mais... déjà l'amour en solitaire, ça a 3 ans, 4 ans déjà, non?
Merci Nagui, ouais, c'est un vieux truc que j'ai ressorti de mon vieux tiroir. Non, vrai oui, ou c'est vrai. C'est une chanson qui avait une autre forme au départ, qui était produite par Yuxek, en électro, etc.
Non, c'est pas ça. C'est que moi, je l'avais entendu sur une compile d'une boutique branchée parisienne.
Absolument.
Voilà,
oui, c'est
Colette,
vrai.
Pour pas la nommer.
Oui, mais justement, quand il s'est agi de la jouer en live, je me suis vraiment dit qu'il fallait la mettre au piano. Mais on met du temps à trouver sa voix. Et au départ, moi, je chantais pas du tout comme ça. Je chantais avec une voix beaucoup plus tonitruante, beaucoup plus grave. Donc, avec le temps, je me suis un peu évaporée. Il y a comme un monde d'amour. Je ressens un monde d'amour tout en moi.
L'écriture se fait paroles et musique de quelle manière? Vous mettez dans une ambiance particulière, dans une humeur? Vous choisissez la musique avant de savoir quel texte?
Non, je fais toujours piano, mélodie et chant et paroles en même temps. Justement pour que le chant soit au plus serré du texte, pour que je ne sais pas du tout écrire sans composer, ça vient vraiment ensemble. Mais c'est assez court le temps de l'inspiration, en vrai il est extrêmement court, il est fugace, il faut l'attraper, il ne faut pas le relâcher. Donc une chanson c'est 2 jours, pas plus, sinon c'est mauvais signe.
Sur les fameuses fiches que l'on remplit à l'école, vous aviez écrit, et vous avez retrouvé même cette fiche, vous aviez dit... Un métier que rêvez-vous de faire, chanteuse ou comédienne?
Journaliste, j'avais écrit journaliste et chanteuse.
Ouais. Journaliste et chanteuse. Et voilà. Vous avez fait les deux, finalement.
J'ai fait les deux, voilà. Bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis plutôt contente pour le moment, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire
avec
ça.
Vous avez fait des docs pour Arte, c'est ça?
Ouais, j'ai bossé pour Arte pendant 7 ans. J'ai fait des documentaires
sur
de
quel
société.
Genre de sujet?
Oh, j'ai fait un truc sur la fessée. J'ai fait un truc sur...
Vous cherchez des problèmes. Enfin, non, vous allez essayer. Franchement, vous cherchez des problèmes. Faites gaffe. Il y a des malades ici. Il y a Jérémy El Kaïm. Je ne sais pas comment on va le retenir.
Sur la vieillesse. Sur
fessée au vieux. Eh ben, bravo.
Sympa pour tu Daniel. Rien,
je vois vos paroles.
Non,
un album sur la fessée.
Vous avez un cœur de cible autour de la table.
Non, c'était sur l'éducation des enfants en Suède. Mais du coup...
Ah oui, je l'ai vu celui-là.
Ouais, voilà. Ben voilà, c'était ça.
Eh ben, le lien justement avec la Suède et le film de Jérémy. Et de Jérémy El Kaïm, c'est que ce soir, vous allez vous produire au Champs-Élysées Film Festival, justement.
Absolument.
Je ne savais pas qu'il y avait des concerts en plus de...
Moi non plus.
Du jury des films. Très bien, vous y serez. Ça sera à 22h30, dans quelle salle?
Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je me laisse un peu porter. J'ai des journées un peu denses en ce moment, donc
donc ce sont vos gens qui vous disent où vous
allez? Non, ce ne sont pas mes gens, mais je pense que je trouverai la salle. Il n'y a aucun problème.
Et mercredi, vous serez à l'Olympia pour la fête de la musique de France Inter.
Absolument.
Exact. Voilà. Elle est en tournée tout cet été, le 5 juillet au Festival Days Off de Paris, le 6 juillet à Saint-Malo, le 10 vous serez à Montreux au Jazz Festival. Ça, c'est cultissime, c'est mythique en plus, il y a une ambiance absolument magique, et je n'y suis jamais allé. Le 12 juillet à Valence, le 14 juillet à Saint-Thomas-sur-Mer, le 16 juillet au Franco.
Ça apprend, hein, attention.
Sauf que vous ne saurez, mais non, tu ne sais jamais où est la vérité.
C'est vrai.
Le 16 juillet, donc, au Franco de La Rochelle, le 17 à Ardelot, le 20 juillet à Bayonne, j'adore Bayonne. Le 31 juillet à Carcassonne, j'espère que c'est au Théâtre de la Cité, à Carcassonne, et le 1er août à Ramatuelle, où je viendrai vous voir.
Très bien, et je joue à La Cigale, le 11 octobre.
Absolument.
Mais là, il ne viendra pas.
Vous interprétez également sur l'album hommage à Barbara, qui s'appelle Elle, au pluriel, et Barbara.
Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie.
C'est la version définitive.
Tant pis. Semblant crever le ciel.
Vous êtes de bonne humeur.
Et en plus, oui.
Juliette, on vous aime, hein. c'est que non, des vannes à deux balles, mais on vous aime.
On va se parler après.
Vous êtes dans votre documentaire.
Vous approchez pas trop quand même.
L'amour en solitaire sur l'album Petite Amie. Elle nous interprétera tout à l'heure un autre extrait de cet album et ainsi qu'une reprise qu'elle a spécialement faite pour nous et qu'on a hâte de découvrir. Juliette Armanet ce soir au Champs-Élysées Film Festival à 22h30 et on redonnera les dates de cette tournée. Puis, de toute façon, toutes ces dates seront mises sur le site évidemment de l'émission. Merci encore.
Merci infiniment. Merci.
France Inter, Nagui La bande originale.
La bande originale de Jérémy El-Khaïm, qui est justement membre du jury aussi de Champs-Élysées.
C'est une émission sérieuse, Nagui.
Oui, ben, justement, mais je voudrais que vous me disiez juste en quoi consiste ce film festival.
C'est un festival qui présente des films indépendants. Cette année, il y a une particularité, c'est qu'il y a à la fois une sélection américaine, donc de cinéma indépendant américain, et française.
Il y a 6 films en compétition
pour les Américains.
Les Américains
et 6 pour les Français.
Exactement. Voilà, exactement. Et dans le jury, vous y êtes aux côtés de Vincent de Dienne, Lolita Chama, Lola Créton, Camilla Jordana, Gustave Kerven et Karidja Touré. Et tout ça avec Randall Kleiser, mm-hmm. pour le président.
On connaît pas forcément son nom, mais on connaît bien son film.
Grease.
Oui,
évidemment.
Voilà. Non, mais je dis ça parce que moi personnellement, je confesse mon ignorance. Je connaissais pas le metteur en scène, mais en revanche, son film
Grease, énorme, énormissime.
Vous saviez pas.
Énormissime. Voici l'humeur de Frédéric Siris.
Bonjour à tous. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors je sais ce que vous vous dites, hein. Bon, Nagui a aimé mon film, je m'en doutais, j'étais excellent dedans.
C'est tout
mais,
moi.
Voilà, mais qu'en est-il de Frédéric Siris? Ou alors vous vous dites juste qui est Frédéric Siris? Alors je résume parce que je trouve que Nagui est passé un petit peu à côté du film. Dans la forêt est une sorte de comédie familiale sur les bienfaits du bivouac en milieu naturel. C'est entre camping et massacre à la tronçonneuse. Ah, on peut résumer comme ça.
Enfin quelqu'un qui a compris.
Voilà. Alors personnellement, je ne vous le cache pas Jérémy, c'est un film qui m'a terrifié. Oui, parce qu'un père de famille coincé dans une forêt pendant plusieurs jours avec ses 2 gosses... Sans électricité, sans réseau,
sans portable,
sans wifi, sans sa femme. Non mais en tant qu'amateur de films d'horreur, j'en ai vu un paquet. Hein. J'ai jamais été aussi mal à l'aise devant une histoire. Vous avez mis sur pellicule l'idée même que je me fais d'un cauchemar. Être coincé dans une maison au milieu nulle part avec des gosses. Parce que d'habitude dans les films d'horreur, le héros se retrouve coincé dans une maison glauque habitée par une famille de consanguins, cannibales et racistes. Vous savez, genre Brice Hortefeux qui a fait un gosse à Robert Ménard. Ah, on sait comment ça se passe. On sait ce qu'il va faire. Le héros, un coup de pelle, il leur fout le feu, il leur roule dessus. Dans les films d'horreur, t'as le droit. C'est de la légitime défense. À la fin, les flics débarquent, ils découvrent dans la maison des tas de cadavres. Aucune charge ne sera retenue contre lui. Mais quand t'es coincé avec des gosses, mets un coup de pelle à un enfant et tu vas voir ce qui va te tomber dessus. Maison abandonnée ou pas, t'as pas le droit, tu peux rien faire, c'est flippant les enfants. Et ça fait des trucs chelous, on va pas se mentir. Tous les parents peuvent en témoigner, les enfants ça se comporte comme une créature de film d'horreur, j'invente rien. Moi, le nombre de fois où je me suis réveillé en sursaut, hein, pendant la nuit, parce que je chantais une présence dans ma chambre, un souffle, j'ouvre les yeux et là je tombe sur mon fils debout dans le noir, le regard vide, qui me dit « Papa... j'arrive pas à dormir. » Mais qui fait ça? Qui fait ça par un sociopathe? Des fois, je passe devant sa chambre et je l'entends parler tout seul. J'ouvre comme ça, je dis « À qui tu parles ?» Il me regarde comme si de rien n'était, il me répond « À personne, papa. » Je referme et il recommence. Des fois, ma fille, elle met la table. Elle met 5 assiettes alors qu'on n'est que 4. Et quand je lui demande pour qui est la 5e, elle me dit « C'est pour boulangerie. » C'est qui boulangerie? C'est mon chien imaginaire. C'est pas un comportement tordu, ça? Et autre sujet que le film a l'élégance de ne pas aborder, c'est la charge mentale de votre personnage. Hein, je rappelle aux auditeurs ce qu'est la charge mentale, c'est un concept sociologique à la mode. En gros, quand ta femme gueule parce qu'elle a l'impression de tout faire dans la maison et que toi, en tant qu'homme, tu lui dis bah, « fallait me demander !» Tu lui ajoutes une pression psychique qu'on appelle la charge mentale.
Tout le monde, c'est très à la mode.
Grosso modo, en fait, elle n'a pas à vous demander, c'est à vous de le faire avant qu'elle ait à s'en charger.
Ça passera.
Bon, bah vous Jérémy, dans le film, tout seul avec 2 gamins dans une forêt... Est-ce qu'on vous entend vous plaindre?
Non.
Vous enchaînez les repas, la réparation de la maison.
Ça, c'est une part documentaire du film.
J'étais admiratif. L'éveil à la nature, vous apprenez aux petits à nager, vous faites des jeux rigolos, on apprend à parler aux morts, hein, vous vous retapez même à bateau, tout ça avec des migraines et des insomnies, et pourtant, pas un mot, pas une plainte, rien, le mec impeccable. Alors, c'est sûr, votre personnage dans le film n'est pas hyper câlin.
Non.
Hein. J'ai connu des rayons Picard plus chaleureux que vous. Mais tout de même, gestion charge mental, chapeau Jérémy. Alors depuis que ma femme a découvert ce concept là, elle arrête pas à la maison. Dès que je lui demande un truc, il dit charge mentale, charge mentale. Franchement, mais si ma femme était un portable, elle aurait tout le temps 100% de batterie tellement on me casse les couilles avec charge mentale. Moi je lui ai dit, au lieu de stresser pour des broutilles qui te pourrissent la vie inutilement, devant une tâche quotidienne, fais comme moi. ferme les yeux et n'y pense plus. En général, le lendemain, ton problème a disparu. Et là, elle me dit, elle m'a répondu, bah oui, il a disparu parce que c'est moi qui m'en suis chargé. J'ai dit, bah, mais moi, j'y peux rien si tu manques de volonté, mon amour. Tout ça pour dire, Jérémy, qu'il y a deux grilles de lecture dans votre film. Une dans laquelle on se dit, dommage, après ce film, les pères de famille n'auront jamais la garde des enfants, après un divorce. Et l'autre dans laquelle on se dit, youpi, après ce film, les pères de famille n'auront jamais la garde des enfants. Merci à vous.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Merci Frédéric Sigrist, la bande originale avec Jérémy Alcaï, membre du jury du Champs-Élysées Film Festival qui se poursuit jusqu'au 22 juin et qui sort, qui publie, puisqu'il est producteur aussi et interprète de ce film Dans la route. D'ailleurs, est-ce que quand on est producteur et acteur...
Dans la route.
Dans la forêt, pardon.
Non mais il y a une route
pour aller pour aller
OK, allez-y, vous avez 5 minutes de van, c'est fait, merci. Non, je savais ce que vous modifiez à part le titre.
Vous n'allez pas relever.
C'est ça que t'appelles 5 minutes ?
Il y avait un PA, j'appelle la générosité du producteur.
Est-ce que vous modifiez quelque chose ou est-ce que vous laissez libre cours à la volonté et à l'imagination de Gilles Marchand ?
Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait quand on c'est ce que j'ai découvert. Alors après il y aura 1000 producteurs peut-être pour me contredire, mais on ne produit pas forcément un sujet, un film ou un scénario, on produit vraiment un metteur en scène et donc on le produit avec ce qu'il est en tant qu'être humain. On voit bien qu'il y a des gens, ils ont besoin au contraire d'être encouragés, qu'on ouvre les vannes.
On ne suggère rien,
Je pense qu'il y a des metteurs en scène qui ont besoin qu'on leur arrête les pieds, qu'on cadre des choses, et au contraire, d'autres qui ont besoin qu'on les pousse à devenir plus fous, à se laisser aller, à s'abandonner à leur travail, parce qu'ils vont avoir une retenue, quelque chose qui... une autocensure, ça existe très fort, je pense, chez les auteurs et les artistes.
Et vous avez cloisonné votre rôle de producteur sur le tournage ?
Alors, ce qui s'est passé là, en l'occurrence, c'était nécessaire, c'est qu'au moment du tournage, le travail de producteur stricto sensu est déjà fait, en fait, parce qu'il s'agit d'aller chercher des sous, de permettre au film de se fabriquer, mais après, c'est presque un travail de directeur de production. Sur le tournage, c'est rare que les producteurs passent beaucoup de temps. Ils viennent de temps en temps. Il y a quelques producteurs interventionnistes, mais la plupart du temps, ils font des petits passages éclairs et ils laissent le soin de la fabrication au metteur en scène.
On n'est pas inquiet du temps que prennent les journées de tournage ou de la météo.
On a eu une chance incroyable. Ouais. Mais vraiment,
ça joue, ça.
Mais la chance, ça joue hein, dans plein de domaines.
Et la météo aussi quand on tourne en forêt.
Ouais. Mais non, tout a été assez idyllique sur le tournage.
La bande originale de Jérémy Alcaïm, on a demandé ce que vous écoutiez, notamment en 1978.
Alors, j'écoutais pas grand-chose.
Puisque c'était l'année de votre naissance, ouais. Mais la référence, en tout cas, musicale, était Vinicius de Moraes. J'adore.
Eu sei que vou te amar por toda minha vida, eu vou te amar.
C'est beau, c'est Maria Creusa.
C'est la voix de Maria Creusa, oui. Ouais, c'est un poète, Vinicius de Moraes.
Ouais, c'est un grand poète et il a fait comme ça deux albums de live qui ont bercé mon enfance, qui étaient écoutés par ma mère.
Hélène,
tout à fait. Dis donc, vous êtes renseigné. Et donc j'écoutais à la maison, puisqu'on ne décide pas de ce qu'on écoute quand on est enfant, vous le savez, Vinicius de Moraes. Et en fait, je l'ai redécouvert, aimé presque plus fort, moi, en grandissant. Il y a un mélange de... C'est les vacances rêvées, la bande originale de Vacances rêvées. Et puis c'est très émouvant. Là, celle-ci, elle est très belle. Elle raconte que tu peux partir, tu es parti, et je serai là quand tu reviendras. Je t'aimerai encore, je t'aimerai toujours, je ne cesserai de t'aimer.
Mais vous parlez portugais ?
Non, mais bon, je me suis un peu intéressé puisque ça me plaît. C'est très beau l'idée d'un amour inconditionnel pour l'enfance et le rapport aux parents. Voilà, vous m'avez demandé 1978. C'était véritablement une chanson qui se diffusait chez moi, et puis je trouve ça beau ce qu'elle raconte.
Votre papa était professeur de lettres, votre maman avait créé l'association Lycéens et Apprentis au cinéma, travaillait pour le festival du documentaire de Marseille.
Ouais.
Vos parents se sont séparés lorsque vous étiez petit et la seconde compagne de votre papa vous a offert un prix de consolation.
Ah oui.
C'est quoi cette histoire?
C'est un peu particulier. elle a participé à une émission de télévision, un jeu télévisé dans lequel
Jeopardy,
voilà, qui avait que assez amusant somme toute, puisque il s'agit de...
J'ai jamais compris la règle du jeu.
Alors la règle du jeu est assez simple, c'est on vous donne une réponse et vous devez imaginer la question.
OK, vas-y, on joue. Alors je te donne Tour Eiffel, c'était quoi la question?
Quel est le monument le plus connu de Paris?
Pas du tout. C'est café Gustave il y a une centaine d'années. Donc, je veux dire c'est
bah
c'est
oui, mais les deux fonctionnent.
Mais je m'en fous.
C'est pas son jeu.
Sans le producteur qui voilà.
Quand il y avait trou dans les paroles,
il a jamais compris.
Mais ça a été un carton.
Il a pas voulu produire.
Vous avez vu, j'ai été bon quand même.
Aux États-Unis,
moi je suis assez content parce que toujours déboté, j'étais un bon candidat. J'aimerais quand même que non. Toujours est-il que en fait je m'en fous un peu du jeu.
Bonne réponse.
Elle a remporté la totalité des films Warner en VHS. Et nous avions un magnétoscope à l'époque.
Donc l'occasion pour vous de vous plonger dans
tous ces films.
Regarder
tous ces films, exactement.
Et lequel serait votre Madeleine aujourd'hui? Vous auriez quoi comme référence? S'il y en avait un à retenir de ce coffret, ouais.
Cette époque-là, je pense que... Non, mais c'est des films spéciaux, hein, Warner. C'était pas que des trucs légers. Hein. Je me souviens d'un film de Cimino qui s'appelait Voyage au bout de l'enfer. Ouais. C'est pas tout à fait des... Non, mais c'est les films qui m'ont le plus marqué. Délivrance.
C'est la scène avec la roulette russe.
Ouais, c'est ça.
Une violence inouïe. Vous avez quel âge quand vous avez vu ça?
Trop petit, beaucoup trop jeune.
Et ça donne dans la forêt.
Ouais, ça explique deux, trois trucs.
Tout s'explique.
En 1995, vous écoutiez Nirvana. Come
as you are, Nirvana, Unplug, là en l'occurrence. Parce qu'en fait, je... C'est pas que j'écoutais Nirvana, c'est que je me souviens avoir vu, parce que comme les dates sont précises quand vous m'en avez demandé, je me souviens avoir vu...
Le concert d'MTV?
Ouais, ce concert-là, en fait, et avoir été à la fois impressionné par... il était présenté comme un type hyper crade, c'était l'époque...
Les grunge.
Les grunge, ouais. Voilà, et donc... Et moi, j'avais le sentiment d'avoir vu un ange, quasiment, au moment où il chantait, il me semblait pas spécialement sale, et il avait un truc de chant, et peu de temps après, il est mort. Et donc, le fait d'avoir été attentif à lui, à l'humain, j'adorais le morceau... Et qui se soit donné la mort, c'est, ça fait partie des choses étranges qui nous marquent et qui sont là. Et qui...
Kurt Cobain, excellent à la roulette russe. Hein.
Oui.
Un coup, un succès.
Boum. Dans le mille.
C'est encore votre maman qui joue un rôle, comme évidemment toute votre vie. Vous avez 16 ans et elle vous incite à passer un concours pour participer à un jury à Cannes.
Oui, c'est ça, ouais. C'est...
Déjà un jury.
Ouais, j'étais déjà... Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais j'ai commencé même par être juré. Oui, alors c'était un drôle de festival qui n'existe plus, où effectivement on prenait des lycéens et on les mettait avec des jeunes metteurs en scène et acteurs, et ils formaient comme ça un jury à Cannes et on pouvait statuer, enfin faire le travail d'un juré. J'ai fait pas mal de rencontres et qui m'ont poussé à travailler sur des films un peu à tous les postes, très jeune, et assez rapidement après j'ai arrêté l'école.
Vous avez rencontré là-bas le jeune cinéaste Antoine Desrosières,
oui.
Dont le premier long métrage à la Belle Étoile avec Malil Poupeau et Cara Mastroianni venait de sortir, et de cette sympathie est née l'envie de passer
oui, ça s'est fait.
La ligne.
Ça s'est fait un peu comme je vous le dis, c'est-à-dire je savais que j'avais envie d'être là, d'être à cet endroit-là, d'être proche de cette machine, de la caméra, de ce qui allait capter. J'étais déjà cinéphile.
Mais pas comédien.
Et pas, à l'époque, je me disais pas forcément que j'allais jouer. Ça s'est fait un peu comme ça, parce que on a fait un film, il a tourné un film dans des conditions absolument merveilleuses pour apprendre le cinéma. On est parti sans scénario et on écrivait la veille pour le lendemain. Le film au final s'appelle Banqueroute. Il a pas fait énormément d'entrées, mais le film est très réussi. C'est avec Mathieu Denis.
C'est un titre prometteur.
C'était lointainement inspiré d'un banquier qui s'appelait Nick Leeson, qui avait fait péter la Banque Paris.
D'une histoire vraie.
Voilà, d'une histoire vraie. Mais enfin, toujours est-il que c'était délirant. C'est-à-dire que moi, j'ai défriché absolument tous les enjeux du cinéma. On réfléchissait aux séquences, il fallait les
C'est sorti qu'en 2000, un Banqueroute. C'est ça, ça a mis 5 ans pour sortir.
Oui. Non, mais vous êtes extrêmement bien renseigné. Je suis impressionné.
En 2010, votre première expérience de réalisateur, c'est avec Manu. À ce moment-là, vous écoutiez. Nation business, a
modern piece of glasswork. L'arrivée de Vampire Weekend, moi
j'adore.
Bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, c'est très joyeux et je... je fais encore aujourd'hui des sessions de boom avec mes enfants le matin avant de...
Avec Vampire Weekend.
Et avec Vampire Weekend.
C'est bien, c'est bien. Manu est votre premier court-métrage, et puis ensuite il y a eu la rencontre avec Valérie Donzelli pour La Reine des Pommes, sur la dépression amoureuse d'une fille qu'elle interprétait, où son ex est partout. Vous,
ouais.
Prémonition.
Ouais.
Pardon.
Non, mais on avait déjà vécu pas mal de choses ensemble à ce moment-là.
Et 2011, il y a La Guerre est déclarée. Alors là, ça a été
la
révélation d'une force inouïe, parce que vous inspirez de votre propre histoire. Tout le monde a été bouleversé. On peut pas voir ce film et en sortir indifférent. C'est quoi qu'il arrive dans votre carrière, ça sera le film qui aura marqué votre vie.
C'est un film assez marquant. Alors plus que pour le sujet, si je suis tout à fait honnête, c'est parce que je me souviens de l'énergie qu'on avait, du désir qu'on avait de faire du cinéma, et que c'était la concentration de ce désir-là. C'est-à-dire, vous savez, c'est le moment où moi j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup mes contemporains en faire, et on a eu envie de se dire, ah, et si on s'autorisait? Si on s'autorisait à changer de ton dans le film, si on s'autorisait à pas être tout à fait naturaliste, à pas être dans les critères, à pas fabriquer tout à fait comme il faut, en fait, à un peu désobéir. Et en désobéissant, on a fait ce film-là. Et moi, ce que ça m'a marqué, enfin, ou du moins, ça a marqué quelque chose dans mon rapport au cinéma, parce que, pour moi, c'est une éloge de la désobéissance artistique. Je trouve ce que je disais tout à l'heure, c'est que la censure, elle est souvent en nous. Et qu'il y a des cadres, il y a des choses qu'on nous offre et on nous dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et la plupart du temps, c'est un petit peu en déviant la manière de faire qu'on réussit à poser des cailloux intéressants.
En déviant la manière de faire, je vais reprendre cette formule pour
présenter... Enfin, je ne sais pas si c'est bien dit, mais vous comprenez.
Mais si, elle va détourner une chanson, Juliette Armanet, maintenant. Vous l'avez... Oui, elle va détourner, parce que vous la connaissez peut-être comme ça, cette chanson. Il n'y a pas que les grands
qui rêvent. Ah ouais.
Et on se dit, mais qu'est-ce que Juliette Armanet peut en faire? Eh ben, c'est maintenant qu'on va le savoir.
C'est une chanson de Guy Carly.
Oui. C'est exactement, les paroles, en tout cas. Les paroles de Guy Carly.
C'est pas lui qui chantait?
Non.
Non, j'apprends des trucs.
Voici Juliette Armanet en live dans la bande originale.
Sur la vitre qui ruisselle, la terre me paraît si belle. Je tenne cet orage au désert, les neiges éternelles sur le cœur. J'offre les jardins de Babylone à ce garçon pour qui mon cœur frissonne. Grandis pas trop vite, attends-moi, je sais qu'un jour tu viendras vers moi. Y'a pas que les grands qui rêvent, y'a pas que les grands qui ont des sentiments. J'voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Y'a pas que les grands qui rêvent, y'a pas que les grands qui ont des sentiments. C'est comme une enfance qui s'achève dans un océan.
Avec cette reprise spécialement pour nous, merci, bravo Juliette. Elle sera en concert ce soir, Juliette Armanet, avec tous les titres de son album Petite Amie. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a de la musique présente au Champs-Élysées Film Festival. Ça sera sur le rooftop de la
Terre.
Champs-Élysées Film Festival. C'est sur le rooftop de la sur la terrasse de l'immeuble Publicis que vous devez vous retrouver ce soir, Juliette. Voilà, je vous en prie. Et demain, ce sera plus facile à repérer. Vous
c'est
serez
en haut à gauche. Vous verrez, il y a un grand truc en vert.
À l'Olympia, Juliette Armanet pour la fête de la musique de France Inter, où il y aura l'anomalie de M. C'est pas d'anomalie, mais c'est l'amomalie. Fishback, Gaël Faye, Oumou Sang.